Effectivement, nous allons ouvrir ensemble la parole de vérité dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 1 à 11. Et la version qui s'affichera et celle que je lirai est la version second 21. Donc 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 11. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit », et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Quelle est l'idée centrale de ce passage? L'idée centrale de ce passage, c'est qu'il y a un Saint-Esprit, un seul, il est unique, le Saint-Esprit, dont la communion est partagée par tous les croyants, et ce Saint-Esprit accorde à chacun pour le bien de tous des dons. Mais que faut-il entendre par le mot « don » ou des fois on dit « don spirituel » c'est-à-dire don qui vient de l'Esprit. Au verset 1 de ce texte que nous avons lu, l'apôtre Paul parle des choses spirituelles, littéralement on pourrait traduire des spirituels, c'est le terme pneumatikoi, hein, donc les spirituels, pneuma, hein, comme on a encore aujourd'hui dans pneumatique, hein, ça veut dire le souffle, le vent et l'esprit aussi. Ce terme est un terme général qui se rapporte tout simplement à pneuma en grec, l'esprit. Aucun doute qu'il s'agit ici de l'Esprit Saint qui est descendu sur les disciples réunis à la Pentecôte. Cela ne fait aucun doute. Par contre, il n'est pas évident du tout que nous devrions traduire ce terme par « don spirituel ». La TOB propose phénomène spirituel, la NBS pratique spirituelle et la seconde 21 que je vous ai lu réalité spirituelle, des choses spirituelles. On pourrait même mettre le mot chose, je crois, dans la Summer, il y a le mot chose. Alors pour préciser de quoi il s'agit, dans les versets 4 à 6, l'apôtre Paul emploie trois termes différents pour évoquer justement ce que sont ces réalités spirituelles, ces choses spirituelles, ces pratiques spirituelles ou ces phénomènes spirituels. Vous voyez déjà que quand on traduit, quelque part, on donne un sens à la suite. Et donc, dans les versets 4 à 6, l'apôtre Paul emploie trois termes pour préciser ce qu'il veut dire. Il emploie le premier terme, charisma, qu'on traduit par, qu'on transcrit parfois par charisme, et qui vient du grec charis, et charis, c'est tout simplement la grâce. Charisma, donc quelque chose qui a un rapport avec la grâce. Diaconia, ça c'est au verset 5, qu'on traduit souvent par ministère, mais qui en fait est un terme qu'on peut très bien traduire par ministère, mais qu'on peut traduire de façon beaucoup plus large par la notion de service. Le ministère étant un service. Et troisième terme, en grec toujours, énergéma, ça a été traduit par acte dans la traduction que je vous ai lue, on pourrait traduire par activité, par opération. Donc vous allez dire, il précise sa pensée avec trois termes qui sont encore finalement assez généraux et qui ça nous aide pas trop. Mais en tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'un seul terme ne suffit pas pour évoquer ces différents dons spirituels dont l'apôtre nous parle. Les mots utilisés sont complémentaires, ils évoquent le fait que ces dons ou ces choses ou ces réalités spirituelles sont des cadeaux gratuits de Dieu, charisma, qu'ils doivent être vécus dans un esprit de service, diakonia, et qu'ils se traduisent aussi dans une certaine pratique, énergéma. Je voudrais dire quelques mots tout d'abord de ce terme diakonia, à propos donc du ministère ou du service. Ici, dans ce texte, ce mot nous parle de ce qui contribue à l'édification de l'Église. Donc peut-être on pourrait traduire ici par « ministère ». Mais en fait, ce qui contribue à l'édification de l'Église, c'est toutes les personnes qui y participent et qui apportent leur pierre à l'édifice. Le ministère, finalement, au sens large, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement tourné vers l'Église. C'est aussi un service qu'on a en direction du monde. Notre ministère, à moins que vous soyez appelé pour un ministère spécifique lié à la vie de l'Église, mais votre ministère, sinon, il est là où Dieu vous a placé la majeure partie du temps. Il est évident que tous les services et tous les ministères ne sont pas tournés vers l'Église. L'Église, d'ailleurs, n'existe pas pour elle-même. Le but de l'Église n'est pas de vivre seulement l'Église. Le but de l'Église est aussi d'être présent dans le monde et d'être même en mission dans le monde, conformément à ce que Jésus-Christ nous dit à la fin de l'évangile de Matthieu et à la fin d'autres évangiles, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Notre service pour Dieu, c'est ce que nous faisons pour lui dans le cadre de cette mission qu'il a donnée à l'Église. Ce que nous faisons pour lui au quotidien, lorsque l'Église est dispersée, pas comme ce matin nous sommes réunis, mais toute la semaine l'Église est dispersée, chacun dans ses activités. Servir Dieu, ce n'est pas seulement servir l'Église, sauf pour ceux qui sont appelés à un ministère spécifique pour l'Église elle-même, et ça n'est pas le cas de la très grande majorité. Il ne faudrait pas que l'ingénieur qui se trouve parmi nous pense qu'il a trouvé son ministère parce qu'il fait de temps en temps le ménage à l'Église. C'est un service qu'il rend à l'ensemble de la communauté et c'est très bien. Mais ça, son appel, son ministère, sa place dans le plan de Dieu, c'est très probablement là où il se trouve pendant la semaine, sur son lieu de travail, avec ses collègues, là où il peut rayonner et témoigner. À moins que le Seigneur vous ait appelé à un ministère centré sur l'Église, votre ministère est ailleurs. Il est dans le monde, il est pour le monde. Vous vous souvenez de cet appel d'Abraham qu'on a entendu il y a 2 semaines en prédication. Abraham est appelé, en tout cas lui, mais aussi tous ses descendants, à être une lumière pour les nations, une bénédiction, pardon, pour les nations. Et bénir les nations, ce n'est pas seulement bénir l'Église, ça en fait partie, mais c'est beaucoup plus large que cela. C'est votre ministère, c'est votre profession, c'est vos engagements associatifs, vos activités quotidiennes. Voilà tout ce qui peut être mis derrière ce mot « diakonia ». Je vous renvoie aussi d'ailleurs à ce sujet, parce que j'en dis un petit peu plus dans une étude biblique que j'ai pu donner le 7 avril, elle est sur le site internet. Je vous renvoie aussi vers cette étude, parce que j'y développe tout spécialement ce point-là. Continuons dans notre texte et cette notion de don de l'esprit. Selon certains exégètes, dont Robert Somerville, ce texte biblique ne parle pas de capacités personnelles que le Seigneur donnerait à certains. Alors peut-être ça vous surprend, mais je vous dis là une lecture possible. Il ne s'agit pas de capacités personnelles que le Seigneur donne à certains qui les rend capables d'accomplir telle ou telle chose, parler des langues inconnues, accomplir des miracles, devenir prophète, etc. Il s'agit de manifestations de l'Esprit, du Saint-Esprit. Les traductions d'ailleurs que nous utilisons, c'est valable dans ce passage comme dans d'autres, mais peut-être particulièrement dans ce passage, orientent beaucoup la compréhension qu'on va avoir de ce paragraphe. Les traductions orientent ici comme ailleurs notre interprétation dans un sens ou dans un autre. Dans le texte que je vous ai lu, là, dans la seconde 21, ça restait assez plat. Le texte ne prenait pas trop parti pour l'une ou l'autre des interprétations. Il y a aussi une autre difficulté qui est liée encore une fois à la traduction dans ce passage, c'est qu'un sens des mots « don », du mot « don », qui est une très bonne traduction de « charisma », charisma, on peut traduire ça par « don », mais un des sens du mot « don » en français, c'est celui justement d'aptitude, de capacité. Il a un don pour faire ceci, etc. Ce n'est jamais le cas du mot en grec. Donc lorsqu'on traduit « charisma » par « don », il ne faut pas entendre « don » dans le sens capacité ou aptitude, mais uniquement quelque chose qui nous est donné, c'est-à-dire un cadeau. Si on ne veut pas se tromper de sens, quand on a le mot « don », on le remplace par « cadeau ». Et c'est un peu comme dans la parabole aussi des talents. Vous savez, les talents, c'est des pièces d'argent, tout simplement, dans la parabole de Jésus. En français, ça a un autre sens aussi, le mot « talent ». Et puis des fois, dans les prédications, on peut un peu jouer là-dessus, mais ce n'est pas tout à fait rigoureux. Les talents, ce sont simplement une somme d'argent et ce n'est pas une aptitude particulière ou une capacité particulière. C'est un des sens possibles en français, mais pas dans le terme utilisé en grec. Pour moi, la clé de ce passage, c'est le verset 7. « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » C'est la manifestation du Saint-Esprit qui est donnée et pas des capacités. Ce sont des cadeaux que Dieu fait à son Église. Dieu se manifeste de différentes manières et à travers différentes personnes par son Saint-Esprit. Ainsi, les dons de guérison, au pluriel, dont il est question, c'est l'Esprit-Saint qui accorde des guérisons, des cadeaux de guérison, on devrait traduire. Ce ne sont pas des personnes qui ont la capacité personnelle de guérir. Le don de la prophétie, c'est le cadeau que l'Esprit Saint fait à l'Église quand une personne parle de sa part, de la part de Dieu. Cela peut être une prédication, un témoignage, une prière, etc. Je suis conscient que d'autres interprètes lisent autrement ce passage. Le don que chacun reçoit, d'après 1 Pierre 4, verset 10, c'est sa place, certains disent, dans l'œuvre de Dieu. C'est ce que je disais un petit peu avant, peut-être, avec ce terme diaconia, notre place dans l'œuvre de Dieu. S'il se produit un miracle par l'intermédiaire d'une chrétienne, par exemple, cette dernière a participé à l'œuvre de Dieu qui a voulu bénir. Elle n'a pas nécessairement en elle-même la capacité de faire des miracles, mais elle a été un moyen utilisé par Dieu pour manifester sa gloire. Imaginons qu'une parole remplie de sagesse aussi vienne apaiser une situation compliquée et source de tension, voire de division dans l'Église. Eh bien, la personne qui a parlé avec sagesse a joué un rôle de paix, elle a pris sa place dans l'œuvre de paix et d'unité que réalise l'Esprit. Elle a reçu ce don, ce cadeau, de la part de l'Esprit-Saint. Et certains font remarquer alors, et c'est un peu comme toujours quand il y a plusieurs lignes d'interprétation possibles, que les deux lignes sont conciliables. On peut faire se rejoindre les différentes interprétations en disant que les cadeaux que l'Esprit fait pour le bien de l'Église impliquent nécessairement certaines capacités, certaines aptitudes personnelles. Les dons ne sont pas des capacités personnelles, mais ils impliquent des qualités ou aptitudes personnelles. Et quand ces dernières, ces qualités, ces aptitudes sont reconnues, alors c'est la place de chacune et chacun dans l'œuvre que Dieu accomplit qui devient tout d'un coup évidente. Et l'image de l'Église comme un corps qui vient juste après notre passage vient montrer cela, cette place de chacun dans le corps. Ce que l'œil fait n'est pas le rôle de la main. Là aussi, on pourrait y voir une certaine capacité aussi. Ce que l'œil fait, c'est de voir. Eh bien, la main ne peut pas le faire. Elle peut prendre, toucher. Ainsi, chacun a sa place, une place qui implique des capacités, des aptitudes particulières, et tout cela est un cadeau de l'Esprit-Saint qui unit dans la diversité les différents membres de l'Église. Et on pourrait discuter longtemps de ce point, parce que toutes les églises évangéliques sont loin d'être d'accord entre elles à propos de ce passage. Je vous propose néanmoins trois leçons pratiques pour nous ce matin à partir de ce texte. La première, le Saint-Esprit est un acteur incontournable de notre vie chrétienne. C'est la conclusion qu'on peut tirer du verset 3 par sa formulation négative puis positive. Je relis ce verset 3. C'est « Personne ne peut dire, c'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. On pourrait même dire que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, nous pourrions tous rentrer chez nous. Sans lui, on ne peut pas être chrétien. C'est lui qui nous fait naître de nouveau. On ne pourrait pas le devenir. On ne pourrait encore moins continuer à l'être. Évidemment, l'affirmation du verset 3 va au-delà de la simple prononciation de paroles. Il ne s'agit pas seulement de prononcer « Jésus est maudit » ou alors « Jésus est Seigneur », car ça, est effectivement, n'importe qui peut le dire, dans le sens le prononcer, sans même forcément le penser. L'apôtre parle de la réalité qui est évoquée, en fait, derrière ces paroles. Il faut là, encore une fois, comprendre cette expression « dire que Jésus est Seigneur », c'est le dire... Peut-être, oui, le dire aussi de sa bouche, mais le dire par sa vie. Hein, c'est la réalité qui est évoquée derrière ces paroles. Donc personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est l'Esprit qui est en lui, qui est seul capable de nous faire vivre justement cette vie en accord avec Jésus Seigneur. Nul ne peut avoir Jésus comme Seigneur, nul ne peut reconnaître par la foi en lui le Fils de Dieu et son Sauveur, nul ne peut appartenir à Jésus-Christ si ce n'est par l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Ce n'est une réalité pour le croyant que parce que le Saint-Esprit applique cela à notre vie. On ne peut pas devenir chrétien sans l'œuvre du Saint-Esprit en nous. De même, personne ne peut renier Jésus-Christ, l'abandonner et le rejeter à jamais si l'Esprit de Dieu habite en lui. Le salut que Dieu donne et qu'il applique à notre vie par le Saint-Esprit, c'est un don, un cadeau qu'il nous fait. Il ne le reprend pas. On ne peut demeurer dans la foi que parce que le Saint-Esprit nous garde en Jésus-Christ. La réalité de l'œuvre du Saint-Esprit en nous doit être sans cesse réaffirmée. Et on n'est pas ici dans une optique qui soit charismatique ou non charismatique, c'est tout simplement biblique. Le Saint-Esprit est l'acteur incontournable de notre vie chrétienne, de notre naissance, nouvelle naissance, jusqu'à notre mort. Jusqu'à l'éternité. Si nous comptons sur nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Je me souviens d'un partage que j'ai eu avec un frère il y a quelques années maintenant et qui me disait « Mais moi, je me connais. J'aurais pas la force de résister à ceci ou à cela. » Et il avait raison. Mais le Saint-Esprit, lui, a la force et peut nous donner cette force de résister. C'est bien le Saint-Esprit qui nous fait progresser dans la vie chrétienne, qui nous fait devenir des chrétiens matures, qui nous permet de remporter des combats et de grandir dans la foi. L'Esprit-Saint est un acteur incontournable de notre vie chrétienne. Il est Dieu avec nous, c'est un titre qui a été donné à Jésus, mais le Saint-Esprit est Dieu avec nous et Dieu en nous aujourd'hui. Deuxième point que je voudrais souligner, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. C'est le texte qui le dit. C'est la conclusion de ce passage au verset 11. Tout cela, c'est le seul et même Esprit Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons, ses cadeaux, à chacun comme il le veut. Quand on regarde les différents verbes associés au Saint-Esprit dans notre texte, on comprend vite que c'est lui qui est à la baguette. Il opère, il donne, il se manifeste, il met en œuvre, il distribue, etc. C'est lui qui fait tout et c'est lui qui décide de tout. On a souvent du mal à considérer d'ailleurs le Saint-Esprit comme une personne. Le mot « esprit » peut nous sembler impersonnel par rapport en tout cas au mot « père » ou au mot « fils » qui renvoie aux deux autres personnes de la Trinité. Et c'est vrai, son œuvre, l'œuvre du Saint-Esprit, est souvent discrète. Il ne met pas les projecteurs sur lui. Le Saint-Esprit met les projecteurs sur la personne de Jésus-Christ. N'empêche qu'il se manifeste quand même, ce Saint-Esprit, mais souvent de façon très discrète, dans notre fort intérieur. Ou alors il va agir en utilisant des femmes et des hommes, si bien qu'on pourrait presque oublier que c'est lui qui est derrière tout ça. Mais notre texte le rappelle avec force, le Saint-Esprit, cet acteur incontournable de notre vie chrétienne, fait ce qu'il veut. Il est Dieu et Seigneur. Si on regarde les versets 4 à 6, que j'ai déjà mentionnés, ces versets 4 à 6 sont construits de façon symétrique. Il y a diversité de cadeaux, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Si on regarde juste ces trois versets ensemble, je me suis demandé en préparant cette prédication, est-ce qu'on avait là une allusion à la Trinité ? Même plus qu'une allusion, ce serait une mention de la Trinité, mais le même Esprit, et ensuite verset 5, mais le même Seigneur, et verset 6, mais le même Dieu. On aurait donc l'Esprit, le Seigneur qui renverrait à la personne de Jésus, et Dieu à la personne de Dieu le Père. Ou alors, on peut lire aussi autrement, en se disant, il faut y voir des termes qui qualifient l'Esprit. Il y a le même Esprit, mais l'Esprit est Seigneur. C'est dit dans un verset de 2 Corinthiens, l'Esprit, là où est l'Esprit, le Seigneur, et l'Esprit est Dieu. Donc on peut hésiter un petit peu sur comment il faut lire cette mention de la Trinité. Est-ce qu'il s'agit d'une affirmation massive de la divinité du Saint-Esprit, qu'on peut appeler Seigneur et Dieu, ou est-ce qu'on a là une allusion aux trois personnes de la Trinité ? Mais en tout cas, l'Esprit Saint est une personne, et ça c'est très clair, quelle que soit l'interprétation qu'on va retenir. Ce n'est pas une puissance qu'on pourrait contrôler ou canaliser, c'est une personne, et en plus cette personne fait ce qu'elle veut. Cette personne est Dieu. Oublier le Saint-Esprit et son œuvre, c'est oublier Dieu. Limiter l'action de l'Esprit Saint au premier temps de l'Église et ne pas chercher sa plénitude aujourd'hui, c'est se priver d'une communion avec Dieu qui nous est promise. Enfermer le Saint-Esprit aussi dans tel ou tel type de manifestation, réduire son action à telle pratique ou œuvre ou à tel schéma théologique, ce n'est pas le laisser faire ce qu'il veut, mais c'est plutôt s'attendre à ce qu'il fasse ce que nous avons bien pensé et prévu. Il nous faut accepter que le même Saint-Esprit peut agir de façon diverse, selon les personnes, selon les contextes, selon les besoins, parce que c'est lui qui décide. Il fait ce qu'il veut, nous dit le texte. Et ne l'oublions jamais, quand nous parlons du Saint-Esprit et de son œuvre, nous parlons de Dieu. Il peut y avoir des manières de parler du Saint-Esprit ou même d'agir en son nom qui lui manque de respect. Et troisième application, le Saint-Esprit travaille pour le bien de tous. Le texte ne souligne pas seulement la diversité des manifestations du Saint-Esprit, il affirme aussi ce texte et à plusieurs reprises qu'il n'y a qu'un seul Esprit et qu'il agit avec un seul but, le bien de tous. Voilà aussi pourquoi il me paraît important de ne pas comprendre les dons spirituels ou ce qu'on pourrait appeler dons spirituels comme uniquement des capacités que le Seigneur attribuerait à telle ou telle personne, mais plutôt comme des cadeaux que le Saint-Esprit fait à l'Église dans son ensemble, pour le bien de tous. Il n'accorde pas des dons, le Saint-Esprit, pour des individus seulement, mais il fait le cadeau de se manifester de différentes façons et à travers différentes personnes pour le bien de tous. La question n'est donc pas tant de se demander quel don spirituel je possède, mais plutôt comment le Saint-Esprit veut-il se manifester en moi pour mes frères et sœurs. Quel cadeau le Saint-Esprit veut-il faire à travers moi, pour son Église, pour mes collègues de travail, pour mes amis aussi. Quand des chrétiens, et puis qui dit justement cette notion de laisser le Saint-Esprit se manifester en nous, qui dit cela dit esprit de service aussi. Et qui dit service dira humilité. Quand des chrétiens retirent une gloire personnelle de ce qu'ils font au nom du Saint-Esprit, il y a quelque chose de louche. Quand des manifestations attribuées au Saint-Esprit sont indissociables d'une personne en particulier, il y a quelque chose de louche. Quand le Saint-Esprit se manifeste, tantôt par une prière, tantôt par une prédication, tantôt par une parole ou un geste d'encouragement, un conseil avisé, ou même parfois de façon plus spectaculaire, alors, dans ce cas, on peut sans doute dire que le Saint-Esprit distribue ses cadeaux comme il le veut et à qui il veut. C'est ce dont témoigne aussi l'image du corps qui suit immédiatement notre texte. Les manifestations du Saint-Esprit démontrent que nous avons besoin les uns des autres parce que le Seigneur se manifeste à travers les uns et les autres, pas parce que certains auraient reçu une capacité dont le Seigneur lui-même, l'Esprit, dépendrait et qui les rendrait indispensables à l'Église. Quelques mots de conclusion. C'est vrai, le Saint-Esprit agit souvent de façon discrète dans nos vies. Au point peut-être même que dans certains milieux, il peut être oublié. J'avais mis dans le petit résumé du Quoi de Neuf que j'avais lu chez un théologien qui disait « On développe beaucoup de discours sur la personne de Dieu le Père ou sur Dieu le Fils, Jésus-Christ. » Mais qu'on parle finalement assez peu, en tout cas dans notre théologie aussi, de l'Esprit. Il est parfois le grand oublié, ou comme Cendrillon, qui reste à la maison alors que ses deux sœurs partent au bal. Et cela ne peut que l'attrister. Il est pourtant un acteur incontournable de notre vie chrétienne. Sans lui, nous ne serions pas ici. C'est lui qui nous a convaincus, un jour dans notre fort intérieur et de façon progressive aussi, de l'amour de Dieu. C'est lui qui nous garde dans la main du Seigneur. On ne peut pas réduire le Saint-Esprit à une puissance, ni son œuvre à des manifestations qui seraient uniquement spectaculaires. Il est Dieu et il fait ce qu'il veut. Et ce dont nous devons nous souvenir, c'est que l'Esprit Saint travaille pour le bien de tous. Son œuvre, c'est l'édification de l'Église, la communauté des croyants. Son œuvre, c'est aussi de nous équiper pour être témoin là où Dieu nous a placés chaque jour. Et chacun de nous peut y participer à cette œuvre, parce que l'Église, eh bien, c'est nous. Et la promesse est là, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. Amen.